Formidable. Merci beaucoup, cher Père François. Merci à tous de m'accueillir ce soir et à travers moi surtout. Moi, vous pourrez m'oublier très vite, mais n'oubliez pas les chrétiens en détresse. C'est en leur nom que j'ai l'honneur de vous parler ce soir. C'est eux qui m'envoient. Effectivement, je suis très ému de parler d'abord de Père devant le Père François. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. 35 ans. Et je peux vraiment dire, je le dis... à temps et à contre-temps, que le Père François a changé ma vie. Donc, voilà, je sais que le bon Dieu, ça doit faire plaisir au bon Dieu que je sois là. Et puis, je suis très ému de parler devant le Père Marc, également, votre vicaire qui vient du Burkina Faso, et qui sait bien mieux que moi combien les chrétiens de son pays souffrent. Et il en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, la mission, une des missions qui m'est donnée comme directeur de l'AED depuis 4 ans, c'est de porter la voix de ceux qui sont sans voix. Alors je le fais. Si nous nous taisons, les pierres elles-mêmes crieront. Donc je mets tout mon cœur pour porter la voix des chrétiens souffrants. Je passe beaucoup de week-ends et de soirées loin de chez moi. Mais pour dire effectivement, comme l'a dit le Père, à la fois la souffrance des chrétiens à travers le monde, elle est immense. Et je vous proposerai de voir les principales menaces pour les chrétiens aujourd'hui dans le monde. Et puis, depuis 4 ans, je suis aussi le témoin de l'espérance et de la joie des chrétiens souffrants. C'est vraiment le plus grand enseignement qu'ils me donnent. C'est qu'ils sont dans une joie profonde, la joie des amis de Dieu. Et puis, ils sont dans une espérance, et je vous proposerai de réfléchir un peu sur ce qu'est l'espérance. Donc voilà, je suis Benoît de Lampré, je suis marié avec Hermine, je la cite parce que sans elle, je ne pourrais rien faire. Elle me permet de voyager à travers le monde, d'être absent le soir, et voilà, jamais elle ne se plaint, et elle sait que c'est pour le bien de l'Église. Et nous avons 5 enfants, et j'ai la grâce, effectivement, de diriger depuis 4 ans l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui est une fondation, alors c'est un peu pompeux, une fondation pontificale internationale, pontificale au sens où nous agissons in nomine ecclesia, hein, pour l'Église, au nom de l'Église, et nous sommes, et internationale, puisque nous agissons dans le monde entier, partout où les chrétiens souffrent. Et nous sommes une œuvre pontificale que je pourrais traduire par pastorale. C'est-à-dire que notre mission, c'est d'être au service de l'Église, au chevet de l'Église et de soutenir l'Église. Nous ne sommes pas une œuvre humanitaire ou une œuvre de développement. Notre mission, c'est d'être au chevet de l'Église pour lui permettre de vivre, de survivre et de rayonner malgré les épreuves. Et aujourd'hui, l'AED agit dans 140 pays dans le monde. 140 pays, on considère qu'il y a à peu près 196 ou 200 pays hein, sur la planète. 140 pays, ça montre l'ampleur des difficultés pour les chrétiens dans le monde. Et c'est à ce titre que, comme directeur de l'AED, avec mes équipes, je suis un témoin ou un observateur privilégié de la situation de l'Église, de ses détresses profondes et de son espérance immense. Et pour terminer sur la présentation rapide de l'AED que vous connaissez peut-être déjà, on porte 3 missions essentielles. D'abord une mission d'information, ensuite une mission de prière et enfin une mission de charité. Mais dans cet ordre-là, informer pour comprendre, prier pour tout remettre dans les mains de Dieu et agir ensuite chacun à notre mesure. Si je suis à l'AED, effectivement, le Père François l'a rappelé, j'ai travaillé pendant 11 ans pour Enfants du Mékong, et dont 4 années en Asie. Puis ensuite, nous sommes partis dans l'océan Indien avec Apprenti d'Auteuil pendant 5 ans. Ensuite, j'ai travaillé pour une communauté religieuse, les Assomptionnistes, pour un de leurs projets en région parisienne. Et puis j'avais à cœur je voulais continuer, c'était il y a 4 ou 5 ans, je voulais continuer à servir les plus pauvres, ce que je discernais dans mon cœur, à soutenir les plus pauvres et à travailler au service de l'Église. C'est ce que j'avais 50 ans, je me disais, voilà, c'est ce que je veux continuer à faire pour les 10 ans qui viennent. Et je crois que le bon Dieu avait préparé mon cœur. Je vous raconte ce petit témoignage. Il y a 10 ans, quand j'habitais dans l'océan Indien, donc bien loin de là, je ne connaissais même pas l'AED, mais c'était au moment où, vous savez, au Moyen-Orient, les chrétiens étaient sévèrement attaqués par les djihadistes, en Syrie, en Irak. Et j'étais loin de mes frères, mais je portais en moi le désir de les soutenir. Alors, je n'avais pas beaucoup d'argent, donc je ne voyais pas comment financièrement je pouvais aider les chrétiens souffrants. Et puis, donc je ne savais pas trop comment faire. Et alors, m'est venue une intuition. J'en ai pas parlé au Père François comme directive spirituelle, mais tout seul dans mon coin, je me suis dit, tiens, pour me faire proche de mes frères chrétiens souffrants, du Moyen-Orient, je vais réciter le Notre Père en araméen, la langue du Christ, imaginant qu'au Moyen-Orient, les chrétiens parlaient l'araméen. Depuis, j'ai un peu affiné mes connaissances, mais bon, vu de l'océan Indien, je me disais, le bon Dieu va s'y retrouver. Alors me voilà apprenant le Notre Père en araméen pendant 3 mois. J'ai appris dans le silence le plus complet, j'en ai parlé à personne sauf à Hermine, avec qui je partage tout. J'ai appris le Notre Père en araméen, phrase après phrase. Et pendant 10 ans, j'ai récité tous les jours un Notre Père en araméen pour mes frères chrétiens souffrants, notamment au Moyen-Orient. J'avais aussi l'idée que les chrétiens ne souffraient qu'au Moyen-Orient. Voilà. Je fais ça dans le silence de mon cœur. Hermine trouvant ça parfois un peu bizarre, mais parfois elle me trouve un peu bizarre. Donc bon, elle me disait, ça doit être une lubie de Benoît. Mais si le cœur te le dit, vas-y, continue. Et puis voilà que je suis, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, je suis nommé directeur de l'AED, dont j'avais presque jamais entendu parler. Mais j'étais très heureux d'être nommé directeur de l'AED. Et que ma première rencontre, mon premier rendez-vous, une semaine après avoir été nommé directeur de l'AED, je rencontre Monseigneur Garmo, qui est l'archevêque chaldéen de Téhéran en Iran, et qui venait d'être expulsé de son pays définitivement. Il était parti en voyage, et quand il est revenu, on lui a interdit de rentrer dans son pays, pour montrer la situation, ne serait-ce que des chrétiens en Iran. L'archevêque de Téhéran a été interdit de revenir dans son évêché. Il avait laissé toutes ses affaires, il n'a jamais pu revenir. On me le fait rencontrer pour voir ce que l'AED pouvait faire pour lui. Et donc je l'écoute, on essaye de réfléchir un peu à sa situation. Et puis je le fais parler à la fin du rendez-vous des Chaldéens, parce que j'étais encore tout jeune directeur de l'AED, je ne connaissais rien à l'église orientale. Et je lui dis, Monseigneur, Excellence, est-ce que vous pourriez me dire un peu qui sont les Chaldéens? Donc il me dit un peu quelques explications. Et puis il me dit, peut-être savez-vous que nous avons comme particularité de réciter le Notre Père en araméen. Et alors là, je lui dis, Monseigneur, savez-vous que j'ai comme particularité de réciter le Notre Père en araméen? Depuis 10 ans, tout seul dans mon cœur, je dis le Notre Père en araméen pour mes frères chrétiens d'Orient. Et voilà que Monseigneur Garmo, qui est pour moi une figure, hein, vraiment l'archevêque chaldéen de Téhéran en Iran expulsé, voilà que Monseigneur Garmo me dit « Souhaitez-vous que nous le disions ensemble ?» Voilà 10 ans que je lui disais tout seul dans mon cœur. Je dis « Mais Monseigneur, pour moi, ça serait un cadeau extraordinaire. » Alors, nous voilà récitant tous les deux le Notre Père en araméen. Et alors, à la fin, il m'a fait une petite réflexion sur mon accent. Bon. Je lui ai dit que je l'avais appris à La Réunion, donc j'avais... Mais plus sérieusement, quelle délicatesse du bon Dieu, qui depuis 10 ans avait préparé mon cœur à cette rencontre, et avait préparé mon cœur à cette mission qu'il m'a confiée de prendre soin des chrétiens, notamment du Moyen-Orient. Vous voyez, à travers une petite initiative personnelle, à tel point qu'à un moment, je m'étais demandé s'il n'y avait pas un peu d'orgueil, vous voyez, d'être capable de réciter le Notre Père comme Jésus. En fait, le bon Dieu avait préparé mon cœur pour la mission que je porte aujourd'hui. Donc j'étais très ému. Et je continue à réciter le Notre Père en araméen, notamment quand je vais au Moyen-Orient, ça m'est très utile pour mon travail. Et j'ai amélioré mon accent en araméen. Et donc je crois vraiment que la mission qui m'est confiée par le conseil d'administration est aussi un projet du bon Dieu. Et pour illustrer aussi cette prière que je récitais pour les chrétiens d'Orient, et désormais plus largement pour les chrétiens dans le monde, Vous savez, la première chose que nous demandent les chrétiens souvent, les souffrants à travers le monde, c'est « ne nous oubliez pas ». Ce qu'il est, ils souffrent beaucoup, on va avoir un peu les grandes menaces pour les chrétiens dans le monde, mais ils souffrent bien souvent dans l'indifférence, dans l'ignorance et dans le silence. Et ça, ça les fait souffrir immensément. C'est comme une double peine. Ça, vous voyez, la souffrance est déjà terrible, parce que parfois c'est une vie de misère, et bien souvent une vie de misère, et parfois au risque de sa vie, mais dans l'indifférence internationale. Et c'est pour ça que c'est la première mission de l'AED de témoigner, d'informer sur la situation des chrétiens souffrants. Il y a un saint... vous me dites, hein, si je suis pas, si quelque chose ne va pas, vous me faites des signes. Hein, est-ce que je peux parler des heures de mes frères à travers le monde ? Non, il y a un saint que j'aime beaucoup. J'ai plein d'amis au ciel et plein de saints que je serais heureux de rencontrer quand j'arriverai au ciel. Alors j'ai toujours beaucoup aimé saint Maximilien Kolbe, que je prie encore beaucoup, parce que, encore plus parce qu'il est, c'est un saint martyr. Et saint Maximilien Kolbe, il disait déjà à la première moitié du XXe siècle que le poison de notre temps, c'est l'indifférence. Déjà, vous voyez, on est en 1920, 1930, il dit déjà ça. Le poison de notre temps, c'est l'indifférence. Eh bien, je crois que 100 ans après, c'est toujours vrai et peut-être même plus vrai encore. C'est que certes, nous sommes abreuvés d'informations. Nous avons, comme je le dis souvent à mes enfants, on a l'information dans la poche, hein, avec notre téléphone. On sait exactement ce qui se passe en Russie une heure après l'attentat. Et pour autant, je ne sais pas si nous sommes plus proches du monde. Donc c'est cette première mission de l'AED de briser ce mur du silence et de l'indifférence et de vous aider, de nous aider à nous faire proches des chrétiens souffrants, ne serait-ce que déjà en s'informant, hein, ne nous oubliez pas. Et puis ensuite, peut-être certainement en priant pour eux, la prière est, comme dit Benoît XVI, performative. La prière, et ça, je pourrais en parler des heures. Je vois à quel point notre prière, ici et maintenant, porte des fruits d'espérance pour les chrétiens dans le monde. Et bien souvent, on est démunis face aux malheurs du monde, voire même écrasés. Et c'est, on verra, c'est la tactique du diable, c'est de nous désespérer. À quoi bon ? De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Mais si, la première chose que nous pouvons faire, après avoir pris connaissance des souffrances, c'est déjà de tout remettre dans les mains du bon Dieu. Et je vous promets, vous le savez déjà, mais que votre prière, ici, à Saint-Philippe-du-Roule, chez vous, où vous soyez, porte des fruits tout à fait extraordinaires. Et puis ensuite, si le cœur vous en dit, si vous pouvez, vous pouvez soutenir des projets, notamment à travers l'AED. Un petit témoignage sur la nécessité de s'informer des chrétiens, sur la situation des chrétiens souffrants. Je suis allé au Nigeria. Il y a quelques mois, vous savez, le Nigeria est certainement un des pays, c'est difficile de faire une liste, mais où il y a le plus grand nombre de chrétiens tués aujourd'hui dans le monde. Les attaques djihadistes sont d'une violence incommensurable. Et je me rappelle être arrivé au Nigeria le week-end où l'ambassade américaine évacuait l'ensemble de ses ressortissants, tout le monde quittait le pays, pour risque accru d'attentats. Donc véritablement, tout le monde partait. Et nous, on a appris ça par la France, par les ministères des Affaires étrangères français, que j'informe de mes missions, le samedi matin. Ils nous ont dit, l'Amérique est en train de vider ses ambassades, nous on est en train d'y réfléchir, qu'est-ce que vous faites ? J'ai décidé de partir et d'être auprès de l'Église souffrante. Eh bien, Monseigneur Kaigama, qui est l'archevêque d'Abuja, qui est la grande capitale du pays, je me souviens très bien de ces mots. Il m'a dit, Benoît, et j'étais avec une petite équipe, avec une petite délégation, votre présence au milieu de la peur, c'était ces mots, au milieu de la peur, est déjà pour notre diocèse un immense encouragement et un immense réconfort. On n'avait rien fait, et moi je n'ai rien fait pour... je peux rien faire pour changer la situation au Nigeria. Mais le fait simplement d'être présent, de tenir la main de Monseigneur Kaigama, de l'écouter, de prier avec lui, ce grand évêque, votre présence est déjà un immense encouragement et un grand réconfort. Donc ne doutez pas que ne serait-ce que ce soir, votre présence auprès des chrétiens souffrants et la prière que vous porterez sera pour eux, selon le cœur de Dieu, d'un immense réconfort et d'un grand encouragement. Et je me souviens aussi, j'étais allé au Liban, juste après l'explosion du port de Beyrouth, en 2020. C'est le quartier chrétien, et notamment tout autour du port. Et donc les communautés chrétiennes, les familles chrétiennes ont perdu énormément de bâtiments. Et je me rappelle avoir visité un hôpital qui est tenu par les Sœurs du Rosaire. L'hôpital était totalement, c'était quasiment effondré sur lui-même, n'était resté que les murs porteurs extérieurs, et puis à l'intérieur, tout s'était écroulé. Et Sœur Nicola, qui est la supérieure des Sœurs du Rosaire et la directrice de l'hôpital, m'avait dit cette phrase qui m'avait touché: « Votre présence est le signe visible de la main de Dieu invisible. » Oui, là aussi, moi, j'ai rien fait pour... on a un peu aidé avec les bienfaiteurs pour aider à reconstruire l'hôpital, pour donner un peu d'argent aux sœurs pour leur permettre de vivre. Mais c'était rien à côté du désastre qu'elles affrontaient et qu'elles continuent à affronter parce que la situation au Liban est terrifiante. Mais le fait même d'être là, de lui tenir la main, de discuter avec elle, de prier ensemble, votre présence est le signe visible de la main de Dieu invisible. Donc, c'est par ces premiers mots que je voulais commencer ce petit témoignage. C'est votre présence ce soir est pour les chrétiens souffrants un signe immense de réconfort, et d'une manière que nous ne pourrons voir que quand on arrivera au ciel, votre présence ce soir porte des fruits pour faire grandir la foi et l'espérance des chrétiens souffrants. Et on ne le voit pas, et c'est très bien ainsi, mais véritablement, moi, je suis persuadé que quand on arrivera au ciel, le bon Dieu nous donnera de contempler tous les bienfaits que nous avons faits pour notre entourage, et puis pour les chrétiens, pour nos frères à travers le monde, ne serait-ce qu'en écoutant un petit témoignage, aussi médiocre soit-il, et en priant pour les chrétiens souffrants. Ça vous va pour cette petite introduction? Ce que je vous propose, c'est rapidement, et puisque je ne suis pas un expert, je ne suis pas de vous exposer les grandes menaces, et puis effectivement, tel que j'en avais parlé au Père, de vous partager la foi et l'espérance, et puis la charité de l'Église et des chrétiens à travers le monde. Je ne suis pas un expert je ne suis pas un intellectuel, ça se saurait. Je ne suis pas... Moi, je suis un fils de l'Église, un petit acteur de la vie de l'Église, et donc, je vous disais, un témoin privilégié de l'Église universelle. Et alors, je dis ce que je vois, et puis j'essaye d'analyser parfois un tout petit peu ce que je vois, mais surtout, je parle pas tant avec ma tête qu'avec mon cœur. Mais sur les grandes menaces, on pourrait dire, on dit souvent à l'AD qu'on identifie trois grandes menaces pour les chrétiens à travers le monde. La première, c'est bien malheureusement le djihadisme, qui est certainement la forme la plus grave et la plus violente de la persécution des chrétiens. Ce djihadisme, on en connaît son histoire et ses origines, hein. Il vient du Moyen-Orient, où il a fait des ravages absolument considérables. Mais aujourd'hui, ce djihadisme, il se propage à une vitesse et une violence inouïe en Afrique, dans la région du Sahel. Ça fait 10 ans que l'AED alerte sur cette arrivée du djihadisme au Sahel. Et aujourd'hui, chaque jour, nous apporte des mauvaises nouvelles du Nigeria, du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, d'une partie du Cameroun. Le djihadisme est comme une gangrène qui vient frapper avec une violence considérable les chrétiens sur place. Les djihadistes ne tolèrent pas, je voudrais dire, ne supportent pas la coexistence religieuse. Et au nom de cette intolérance totale, ils menacent, tuent, chassent, torturent tous ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions et la même foi qu'eux. Mais pour eux, c'est un point absolu non négociable. Il ne peut pas y avoir d'autre religion que la leur. Et c'est d'autant plus désolant que, en Afrique notamment, c'est ce que me disent les anciens, ce que me disent tous les gens que je rencontre, c'est qu'auparavant, dans beaucoup de ces pays, chrétiens et musulmans vivaient parfaitement ensemble, dans un même village, dans une même famille, dans un même diocèse. La coexistence était tranquille. Et qu'on allait à l'école entre chrétiens et musulmans, que dans une famille, une sœur pouvait être mariée avec un musulman, un frère avec une musulmane, ça ne posait aucun problème. Donc ce djihadisme, il est importé. Et comme me disait un évêque, je ne sais plus si c'était un évêque du Burkina Faso ou du Nigeria, il est systémique et systématique. C'est un projet. Faut pas se... Moi, je suis pas, je connaissais rien à ces sujets avant de. Oui, j'étais en Thaïlande, j'étais dans l'océan Indien. Je découvre avec stupéfaction ce sujet du djihadisme et qui me glace le sang parce que il est, encore une fois, il est programmé et rien ne l'arrête aujourd'hui. Dans une indifférence internationale tout à fait impressionnante, notamment en Afrique. Et bien malheureusement, ce djihadisme, il se nourrit de la pauvreté, de la faiblesse des États, de la corruption, de luttes anciennes, notamment en Afrique, entre les éleveurs et les agriculteurs, de rivalités ethniques, du réchauffement climatique, qui aujourd'hui oblige, et je l'ai vu au Nigeria, des milliers de troupeaux à descendre vers le sud, ces troupeaux tenu par des éleveurs qui sont bien souvent musulmans, et du coup ils descendent vers le sud pour essayer d'avoir un peu de terre. Et au sud du Nigeria, ce sont les chrétiens qui sont des agriculteurs qui ont des fermes. Alors du coup, à cause du réchauffement climatique, eh bien ces éleveurs, ils envahissent les terres des agriculteurs et des imams mal intentionnés montrent aux éleveurs que les chrétiens possèdent des terres quand eux n'ont rien. Donc on vient exciter, vous voyez, des rivalités, des jalousies, et on donne un peu d'argent à un jeune garçon et une Kalachnikov, et on lui dit d'aller tuer des chrétiens qui n'ont absolument rien fait. Donc voilà la situation de beaucoup, de milliers de chrétiens notamment au Sahel aujourd'hui. Le père Marc en parlerait bien, bien mieux que moi. Il connaît ces situations par cœur. Juste, j'ai passé il y a quelques jours avec Monseigneur Laurent Dabiré, qui est un évêque du Burkina Faso, l'évêque de Dori, un diocèse au nord du Burkina Faso, qui est vraiment un homme. J'ai la chance de rencontrer des prêtres, des religieuses, des évêques, des laïcs, mais absolument extraordinaire. Vraiment, quand vous passez 10 jours avec Monseigneur Dabiré, qui est d'un calme, c'est un bloc de, vous voyez, de foi, de prière, de courage, et il vous parle de la situation de son diocèse. Monseigneur Dabiré, il considère qu'au Burkina Faso, entre 50 et 60% du territoire sont dans les mains des djihadistes. 50 à 60% du territoire. Dans son grand diocèse, il a 6 grandes paroisses. Il y a un an, il en avait fermé 4 sur 6. Parce que c'était trop dangereux de laisser les religieuses, les prêtres dans son diocèse, dans ses paroisses. 4 sur 6. Et Monseigneur Dabiré m'avait donné ces 2 informations. Pour que les chrétiens ne soient pas des cibles trop faciles pour les djihadistes, les cloches des églises de son diocèse ne sonnent plus. Vous voyez, quand on voit l'importance des cloches qui sonnent dans notre vie quotidienne, les cloches de son diocèse ne sonnent plus, et les horaires des messes changent régulièrement pour ne pas que la messe soit une cible trop facile pour les djihadistes. Vous voyez, des mesures qui nous paraissent inconcevables ici en France. Pourtant, on n'est pas très loin, on est au Burkina Faso. Les cloches de mon diocèse ne sonnent plus, je change régulièrement les horaires des messes pour ne pas faciliter le travail des djihadistes. Et vous voyez, ces mots, ils sont d'autant plus redoutables qu'il y a 20 jours, dans le diocèse de Dori, pendant la messe du dimanche, 15 paroissiens ont été tués par des djihadistes. Donc, ce que disait Monseigneur Dabiré, oui, il fanfaronnait pas, hein. Il disait la vérité. Il connaissait la vérité de la situation de ses frères. Et quand j'ai appris, évidemment, cette nouvelle, je lui ai immédiatement envoyé un petit message d'amitié et de prière. Mais voilà, 20 fidèles sont allés à la messe et ne sont jamais revenus. La deuxième grande menace, pardon si je suis pas trop long, j'espère, hein. Juste la deuxième grande menace pour les chrétiens, ce sont les gouvernements autoritaires. C'est des gouvernements qui détestent l'Église parce qu'ils détestent la vérité, ils détestent la liberté, ils détestent la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors bien sûr, l'Église suit fidèlement le Christ au nom du chemin de la vérité et de la vie, et les gouvernements autoritaires détestent cela. On pense spontanément à la Corée du Nord et certainement à la Chine. Mais je voudrais juste ouvrir vos cœurs à une région du monde à laquelle vous pensez peut-être moins. C'est l'Amérique latine. L'Amérique latine, avant d'arriver à l'AED, pour moi, l'Amérique latine, ce sont des pays de tradition catholique. Alors, être chrétien en Amérique latine, ça paraît être une évidence. Alors, c'est pas si simple que ça. Dans beaucoup de ces pays sont dirigés par des gouvernements autoritaires, des pouvoirs très forts. Et je pense, comme exemple, on peut penser à Cuba, mais je voudrais juste tourner notre regard vers le Nicaragua. Nicaragua, pays où sévit une extrême pauvreté et où l'Église est très présente. Mais il y a un président, le président Ortega, qui est un véritable... Je le qualifie de dictateur, c'est pas une analyse politique. En tout cas, c'est un pouvoir très très fort. Il déteste l'Église. Et l'Église dénonce en permanence, avec un courage remarquable, son comportement d'autocrate et autoritaire. La corruption, le trafic des enfants, trafic d'organes, trafic de drogue. Donc l'Église est toujours là sur son chemin pour lui barrer la route dès qu'il marche sur les plus petits. Eh bien, il y a un évêque, Monseigneur Alvarez, un jeune évêque, peut-être il a 45 ans, 50 ans, qui a dénoncé sans cesse le comportement du président Ortega. Eh bien, tenez-vous bien, cet évêque, il a été condamné l'année dernière à 26 années de prison pour désobéissance. 26 années de prison. 6 mois après, pendant une messe, un autre évêque prononce simplement le nom de Monseigneur Alvarez pendant une homélie, jeté en prison également. Simplement, vous voyez, pour avoir défendu son confrère qui avait dénoncé le président. Fort heureusement, certainement, la diplomatie vaticane, vos prières, Monseigneur Alvarez, l'autre évêque et 16 prêtres emprisonnés ont été libérés il y a peut-être un mois et ont pu quitter le Nicaragua et sont actuellement... on les a priés de quitter le pays et on va voir ce qu'on peut faire. Mais entre-temps, le président Ortega a fermé un certain nombre d'associations, notamment des mouvements scouts. Là aussi, vous voyez, le lieu de l'éducation à la vérité, à la liberté, à la fraternité. Le président a bien vu que c'était un lieu pour lui menaçant. Je sais qu'un certain nombre de mouvements scouts ont été interdits. Donc voilà, des gouvernements autoritaires. On pense très souvent à l'Asie, priez également pour l'Amérique latine. Je termine simplement une grande menace pour les chrétiens. C'est ce que nous appelons le nationalisme ethno-religieux. J'étais au Pakistan, je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur le Pakistan. Le nationalisme ethno-religieux, ce sont ces pays qui affirment que pour être citoyen de plein droit, il faut être d'une race, d'une ethnie et d'une religion. C'est particulièrement vrai en Inde, immense pays. Si vous avez de l'Inde une vision un peu bobo, un peu... Si vous passez quelque temps à l'AED, vous verrez que pour les chrétiens, la situation est loin d'être simple. Les chrétiens sont véritablement considérés comme des chiens. Et je vous raconterai un témoignage au Pakistan parce que parce que ils appartiennent à une religion minoritaire et que souvent ils ne sont pas de pure race indienne, alors ils sont mis au banc de la société. Voilà, très rapidement, c'est beaucoup trop rapide, et les souffrances des chrétiens sont bien trop grandes pour les nommer toutes. Mais nationalisme, djihadisme, gouvernement autoritaire, ces menaces conduisent des milliers et des milliers de chrétiens à vivre leur vie spirituelle au prix de la détresse. Nous considérons à l'AD qu'un chrétien sur sept dans le monde, peut-être 300 millions, 400 millions de chrétiens dans le monde, vivent leur foi au prix d'une vie de misère. Parfois, au risque de leur vie, on l'a vu en Afrique. Un chrétien sur sept dans le monde. Et rappelez-vous cette phrase de saint Paul qui me traverse tous les jours quand je vais à l'AED. Si un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance. Nous sommes membres du même corps, le corps du Christ. Si un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance. La souffrance des chrétiens nous concerne et nous engage. Après moi, je voudrais vous le dire, qu'on se le redise. On ne peut pas se dire... Et ça, saint Paul, étonnamment, dans ce petit passage, il explique bien comment la main ne peut pas dire si le pied a mal, tant pis, ou si la tête a mal, la jambe ne peut pas dire tant pis. Il donne plein d'exemples assez étonnants. Mais en fait, pour dire que c'est... On ne peut pas rester indifférent à la souffrance des chrétiens dans le monde. Ce sont nos frères. Oui, ce sont nos frères. Ce n'est pas un mot... la fraternité, le frère. On est frère dans le Christ. Et aujourd'hui... un chrétien souffre au Burkina Faso, au Nicaragua, au Pakistan ou en Chine, mais ça doit m'empêcher de dormir. Je dois me soucier de lui. Je dois m'informer de sa situation. Je dois le porter dans ma prière. Et je dois le soutenir par ma charité. Véritablement. Véritablement. Parce que, voilà, il n'y a pas d'un côté les chrétiens souffrants et puis ceux qui vont bien, quoi. On est... Si mon frère souffre, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Hein, vraiment, il faut qu'on ait ce sens aigu de la souffrance de nos frères, parce que, encore une fois, l'attention que vous leur portez, la prière que vous exprimez, la charité, les soutient, et en retour, on va voir ça, en retour, le cadeau de foi et d'espérance qu'ils nous font est absolument admirable. Ça vous va ? Et je termine... Vous savez, sur le martyr, vous savez que pendant le mois de mars, le pape François a dédié le mois de mars à la prière pour les nouveaux martyrs. Alors, moi, j'avoue que je ne suis pas forcément familier des prières mensuelles du pape François, mais alors forcément, étant donné mon travail, je m'étais penché sur cette prière du mois de mars. Et le pape invitait les paroisses à travers le monde à prier pour les chrétiens martyrs. Le pape François dit souvent qu'il y a plus de martyrs au XXe siècle que pendant tous les siècles précédents. Et donc à l'AED, vous pouvez repartir avec, parce que le mois de mars n'est pas terminé. On a une petite prière pour les chrétiens martyrs qu'on pourra même prier, si vous le souhaitez, à la fin de ce petit témoignage. Quand je rencontre notamment des enfants, je leur demande, à votre avis, de quand date le dernier martyr chrétien ? Alors ils me le placent très loin. Ils me disent, je ne sais pas quoi, du temps des Romains. Mais en fait, pas du tout. Le dernier martyr chrétien, c'est les 15 paroissiens du diocèse de Dori tués pendant la messe. C'est, j'ai noté rien que pour vous, 15 jours, il y a 15 jours en Éthiopie, 4 moines orthodoxes enlevés et tués. En Haïti, on a vu la violence qui se déchaînait en Haïti. Des prêtres, des religieuses, des laïcs kidnappés. La moitié libérée, l'autre moitié, on n'en a aucune nouvelle. Et on ne saura jamais ce qu'ils sont devenus. Donc le martyr, c'est l'actualité de l'Église aujourd'hui. Le martyr, c'est l'actualité de l'Église. Ce n'est pas qu'une histoire du passé. Le martyr, c'est l'actualité. Voilà sur la détresse profonde des chrétiens qu'il ne faut pas minimiser et qu'il faut que vous ayez au cœur. Mais je ne ferai que la moitié du chemin. Et je trahirais mes frères si je ne parlais que de leur détresse. Oui, je suis directeur de l'aide à l'Église en détresse, mais alors j'ai fait ajouter aide à l'Église en détresse, témoin de l'espérance. Et témoin de l'espérance et de la foi. Alors il se trouve que je vais vous en parler, mais j'ai lu l'encyclique de Benoît XVI sur la foi, sur l'espèce salvi, sur l'espérance. Et Benoît XVI explique bien comment foi et espérance bien souvent, se confondent. Et on pourrait presque remplacer un mot par l'autre. Mais je commence par la foi. Je suis émerveillé par la foi des chrétiens souffrants. Mais absolument émerveillé. Deux témoignages qui suffiront à vous partager mon émerveillement. J'étais au Pakistan il y a quelque temps. Et le Pakistan, un pays totalement musulman, hein, vous connaissez l'histoire du pays, après le départ des Anglais d'Inde, les musulmans demandent à avoir un pays pour eux, ayant peur d'être persécutés. Et alors, on leur donne le Pakistan. Et le pays des hommes purs, c'est ça que ça veut dire Pakistan, hein, pays des hommes purs, donc ceux qui sont musulmans. Et alors voilà que je rencontre pendant ma mission un père de famille qui avait été condamné à 5 années de prison pour rébellion. Alors voilà la rébellion dont il était accusé, c'est qu'il était allé à la messe paroissiale et qu'il y a eu un attentat suicide, un kamikaze qui s'est fait sauter avec une ceinture d'explosifs. Donc, évidemment, ça a été dramatique. Et donc, il y a eu des morts, femmes, enfants, pères. Et les pères de famille, excédés par la situation d'insécurité pendant qu'ils étaient à la messe, ont organisé une manifestation pour réclamer aux autorités qu'il y ait de la police devant les églises pendant la messe pour pouvoir aller à la messe sans risquer de mourir. Ce qui est quand même la moindre des choses dans un pays où la Constitution autorise la liberté religieuse. Et alors, ils organisent une manifestation, ces braves pères de famille, endeuillés, et ils sont tous mis en prison, justement pour rébellion, qui est toujours un argument simple pour mettre les gens en prison. Et dans beaucoup de pays, comme au Pakistan, on vous met en prison et dans l'attente d'un procès hypothétique, et en tout cas qui tarde beaucoup à venir. Et en l'occurrence, ce père de famille a passé 5 ans en prison. Et il me raconte les conditions de détention épouvantables pendant lesquelles il a passé ces 5 années de prison. Je vous ai dit que dans ces pays, les chrétiens sont considérés comme des chiens. C'est eux qui le disent. Et on leur fait sentir en permanence. Et là, pour que vous en ayez une illustration concrète, on leur donnait la nourriture dans la gamelle des chiens. Pendant que le reste des prisonniers pouvaient aller à la cantine, eux, elles s'étaient servies par terre dans la gamelle des chiens. Chiens de chrétiens mangent par terre. Et alors je lui ai demandé, mais comment vous avez fait ? Il était tout simple, il était merveilleux, quoi. J'ai gardé une photo de lui dans mon téléphone. Et je lui ai dit, comment vous avez fait pour résister 5 ans à cette... Et il me parlait que du traitement de la nourriture, la discrétion. Il m'a pas raconté le reste. Et alors il me dit, un témoignage déconcertant, il me dit, alors tous les jours, nous chantions les psaumes et nous disions le chapelet sans cesse. Moi, déjà, j'avais l'impression de, oui, c'était les actes des apôtres sous mes yeux, quoi. Et puis, me dit-il, souvent les geôliers venaient me voir et me disaient, si tu te convertis, nous te libérons. Père de famille... Vous voyez le dilemme, hein. Si tu te convertis, nous te libérons. Et alors je lui dis, mais monsieur, comment vous avez fait pour résister à ce chantage ? Et voilà qu'il me répond, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Plus belle leçon de catéchisme. Vous voyez, pourtant le Père m'en a donné des leçons de catéchisme. Et moi j'ai été à l'eau vive, j'ai été formé, j'ai été... Et voilà que ce petit bonhomme tout simple... à qui on proposait la liberté en trahissant le Christ. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'ai été, je ne sais pas si j'ai pleuré là, tout de suite, maintenant, au moment où il m'a dit ça, mais j'avais envie de le serrer dans mes bras. Je dis, mais il a tout compris. La foi de nos frères chrétiens est absolument bouleversante et édifiante. Bouleversante et édifiante. Et ça lui paraissait, mais normal, quoi. Et moi, je vais vous dire, souvent, je me dis... Si ça devait m'arriver. Alors, j'y pense pas parce qu'on sait pas ce que... Vous voyez, il y a la grâce d'État, je sais pas. Mais je pense que je me dirais que je passerais peut-être un deal avec le bon Dieu en disant, bon, je fais tout haut, je vais leur dire que je me convertis, mais on est d'accord, je reste... OK, c'est un truc entre nous, quoi. C'est pour retrouver Hermine, quoi. Mais même ça, ils négocient pas. même. Ça, vous voyez, je lui aurais dit ça, elle m'aurait dit, mais pour qui vous me prenez, quoi ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ça ne leur vient même pas l'idée de, vous voyez, de négocier, quoi. Non, moi je suis du Christ et je le suis jusqu'au bout. Chrétien souffrant aussi, souvent les plus simples modèles de foi. Un autre petit témoignage qui date de la semaine dernière, de lundi dernier, et qui me vient du Burkina Faso. J'ai déjeuné au bureau avec le supérieur de l'œuvre, du supérieur général des Frères missionnaires des campagnes, qui est une œuvre qui a été créée en France, et qui ont beaucoup de missionnaires. Et il se trouve que ce père rentrait tout juste du Burkina Faso, où il avait rencontré deux frères qui avaient été enlevés par des djihadistes quelque temps avant. Et donc les deux frères kidnappés de la communauté ont raconté au supérieur à qui je déjeunais ce qui leur était arrivé. Et alors ils ont été enlevés je sais quoi, avant la messe, après la messe, et puis on leur a bandé les yeux, on les a emmenés dans la brousse, et les djihadistes, qui sont souvent des jeunes garçons vous voyez, armés avec des motos ou un 4x4, se moquaient d'eux en leur disant, vous allez perdre votre vie. Et alors, c'est ce que me rapporte le frère. Les deux frères ont répondu, « Bon, vous savez, notre vie, nous l'avons déjà donnée. Nous l'avons offerte à Dieu, à notre communauté, à notre paroisse. » Alors vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Oui, notre vie, nous l'avons déjà donnée. Donc, et un peu plus tard, ça m'a bouleversé. Un peu plus tard, les djihadistes jouaient ostensiblement devant les deux frères avec leurs armes, tirant en l'air, jouant avec la gâchette, remettant des munitions. Et un des jeunes garçons, dit à un des frères, je te vois prier là. Je sais que tu pries pour que je ne te tue pas. Et ben voilà ce qu'a répondu le frère. Je ne prie pas pour que tu ne me tues pas. Je prie pour que mon cœur soit prêt à rencontrer Dieu si tu me tues aujourd'hui. Wow. Et vous voyez le ah pardon. Vous voyez le père supérieur qui raconte ça de ses frères. Pareil, avec un déjeuner tout simple dans nos bureaux, quoi. Et je prie pas pour que tu ne me tues pas. Je prie pour que mon cœur soit prêt à voir Jésus si tu me tues aujourd'hui. Voilà. La foi des chrétiens souffrants, que ce soit au Pakistan, au Burkina Faso, et je pourrais raconter 1000 histoires comme celle-là, est absolument bouleversante et édifiante. Au sens, elle vient nourrir, leur foi vient nourrir notre propre foi. Et c'est ce que j'aime beaucoup à l'AED. C'est que ça n'est pas des chrétiens bien portants que nous sommes qui aident des chrétiens souffrants. Certes, nous les aidons. Mais en retour, leur témoignage de foi est un cadeau extraordinaire que je passe mon temps à offrir à tous ceux qui veulent bien prendre un peu de temps pour écouter. C'est extraordinaire. Quand on peut se plaindre en France de l'horaire de la messe, de la longueur du sermon, waouh ! Là, on parle de personnes qui risquent leur vie, qui passent 5 ans en prison et qui disent « Mais faites ce que vous voulez. Moi, j'ai Jésus, j'ai tout. Je lui ai donné ma vie. Elle est déjà accomplie. Tu veux me tuer ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tue-moi. Moi, mon seul désir, c'est de voir Jésus. Le reste, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de prise sur le reste du monde qui va si mal. Mais par votre prière, vous aidez ce petit bonhomme pakistanais, ce père de famille, ses frères, à porter ses paroles le jour où ils sont face à une menace immense. En écoutant ces témoignages, vous priez pour eux. En priant pour eux, vous soutenez leur foi. Et en soutenant leur foi, à leur tour, ils viennent soutenir la vôtre. Le cercle magnifique, vertueux de l'AED, que je vis tous les jours. Souvent, on me demande, c'est pas trop dur d'être directeur de l'aide à l'Église en détresse. Je dis, mais c'est pas dur du tout. C'est extraordinaire. À la fois, je me fais proche de l'Église souffrante, c'est vrai, mais je reçois tous les jours des cadeaux extraordinaires. Le deuxième grand sujet, ça vous va là ? On est... Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Ah, ça va. Un quart d'heure, ça va ? Je vous parle de l'espérance, et après de la charité sur l'espérance. On a parlé de la foi, de la souffrance de la foi, de l'espérance. Juste le grand enseignement que me donnent les chrétiens souffrants dans le monde, c'est l'espérance. L'espérance, alors voilà ce que je voudrais vous dire, c'est que je découvre, ou je redécouvre, ou je vis, que oui, l'espérance chrétienne, mais vous le savez déjà, vous êtes hyper formé par le Père, mais oui, l'espérance, ça n'est pas une attente. L'espérance chrétienne, c'est surtout pas l'espoir. Moi, est-ce que demain le Burkina Faso ira mieux ? Est-ce que le Liban ira mieux ? Est-ce que Ortega va être chassé du pouvoir ? J'en ai aucune idée. Je sais rien. Je sais pas quoi. Ça, c'est l'espoir. Bon, on espère que le monde ira mieux. Mais enfin bon, a priori, ça va pas dans ce sens-là quoi. L'espérance, ça n'est pas une attente. C'est une présence. L'espérance, c'est la certitude de la présence de Dieu au cœur des épreuves, quoi qu'il advienne. Donc je résume cette pensée profonde que je porte, et l'espérance n'est pas une attente, l'espérance est une présence. Et c'est l'enseignement, après 4 ans comme directeur de l'AED, le plus bel enseignement que me donnent les chrétiens souffrants. À une conférence, enfin un témoignage, je disais ça. L'espérance n'est pas une attente, c'est une présence. Petite phrase que j'avais forgée, fruit de mon histoire et puis de ma mission. Et voilà qu'un paroissien vient me voir en disant « Avez-vous lu Spes Salvi de Benoît XVI ?» Non. Vous devriez lire l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance. Alors voilà qu'il me l'envoie, il prend mon mail et il me l'envoie le lendemain en disant « Si je ne lui envoie pas, il ne va pas le faire. » Alors. Il a raison. J'ai lu Spes Salvi, et juste ce qui m'a fait plaisir, c'est que Benoît XVI dit à peu près la même chose que moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il le dit bien mieux que moi, évidemment. Mais sérieusement, je me suis dit que ce que je vivais avec les chrétiens souffrants, l'espérance n'est pas une attente, c'est une présence. Voilà comment Benoît XVI le dit. La foi / l'espérance, il nous dit bien que les deux sont égales, n'est pas seulement une tension La foi n'est pas seulement une tension personnelle vers les biens qui doivent venir, mais qui sont encore absents. Elle nous donne déjà quelque chose. Elle nous donne déjà maintenant quelque chose de la réalité attendue. Et la réalité présente constitue pour nous une preuve des biens que nous ne voyons pas encore. L'espérance attire l'avenir dans le présent, au point que le premier, c'est-à-dire l'avenir, n'est plus le « pas encore ». Le fait que cet avenir existe change le présent. Et le présent est touché par la réalité future. Et ainsi, les biens à venir se déversent sur les biens présents et les biens présents sur les biens à venir. Ce que Benoît de Blanpré résume par « L'espérance n'est pas une attente, c'est une présence ». Mais bon, j'ai lu et relu Benoît XVI, qui a une intelligence prodigieuse. C'est, en fait, et pas d'exégèse, bien sûr que l'espérance, c'est la présence de Dieu, mais qui n'est pas encore pleinement accomplie. Ça sera le paradis. Donc en ce sens, c'est là que Benoît XVI vient légèrement me corriger en disant c'est une présence, encore imparfaite. Mais c'est une préfiguration du paradis. Mais les chrétiens souffrants ont ce sens aigu de la présence de Dieu à leur côté. Et je le dis, c'est ce que j'ai dit au père François lors d'un déjeuner, je n'ai jamais entendu les chrétiens souffrants depuis 4 ans que je vis avec eux. Et puis j'ai travaillé en Asie, je travaillais dans l'océan Indien, donc ça fait 25 ans que je travaille au service de l'Église et des plus pauvres. Je n'ai jamais entendu les chrétiens souffrants récriminer contre Dieu. Jamais. Je les ai entendus râler contre les gouvernements, je les ai entendus râler contre l'ordre, les organisations internationales, contre les ONG, mais jamais je ne les ai entendus récriminer contre le bon Dieu. Les témoignages qu'ils me donnent, c'est ce que je vous ai partagé avant. J'ai pris pour vous cette phrase de Mgr Matthew, l'archevêque de Kaduna, diocèse particulièrement frappé par le djihadisme. Il résume parfaitement cette pensée de Benoît XVI et ma modeste pensée. Nous souffrons, nous sommes traumatisés, découragés, nous dit Mgr Matthew. À l'heure où nous parlons, des milliers de Nigérians sont dans les griffes des kidnappeurs et des centaines de milliers d'autres ont perdu leurs proches. Des centaines de milliers d'autres. Il serait facile de penser que Dieu nous a abandonnés, mais la résurrection de Jésus nous procure l'espérance. L'Évangile nous dit que le Christ ressuscité est toujours avec nous. Mgr Matthew, archevêque de Kaduna. Il serait facile de penser que Dieu nous a abandonnés. La résurrection de Jésus nous procure l'espérance. L'Évangile nous dit que le Christ ressuscité est toujours avec nous. Synthèse parfaite de ce que dit Benoît XVI. Et la vraie espérance, justement, elle naît au cœur de la détresse. Quand il n'y a plus rien à espérer, quand à vue humaine, tout est perdu, alors le seul rocher sur lequel on peut s'appuyer et s'abriter, c'est Dieu. Lui ne nous abandonne jamais. C'est la leçon magnifique que nous donnent les chrétiens en détresse. Je termine. Je suis allé au Nigeria et en quittant le nord du Nigeria, où j'ai senti véritablement une violence et une peur physique, j'étais avec Mgr Mamza, qui est un magnifique évêque au nord du pays, qui me dit « tous les jours, je signe un CDD de 24 heures avec la vie ». Lui, il est magnifique, il est grand, il a sa tenue d'évêque, qu'il ne retirerait pour rien au monde. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Vraiment, il est superbe. Et il me dit, Benoît, moi je risque... Oui, il me disait ça au début, parce que on était entouré de gardes du corps du début à la fin de la mission. Quand on est en voiture, on ne s'arrête jamais au carrefour. Enfin, vous sentez véritablement que la menace est là. Il me dit, Benoît, ne vous inquiétez pas. Moi, ils pourront me tuer. Vous, ils vous enlèveront. Excellence, je vous remercie pour cette bonne nouvelle. Ça dépend du prix de la rançon. Mais véritablement, voilà, lui, je signe un CDD de 24 heures avec la vie, tous les jours. À la fin de ma mission avec Mgr Mamza, vraiment figure tout à fait extraordinaire, je lui dis, Mgr, que souhaitez-vous que je dise aux chrétiens en rentrant en France? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Alors dans ma tête, je m'étais fait un petit schéma de... il allait se plaindre, je sais pas quoi, des persécutions. Je vous dis strictement ce qu'il m'a dit, après avoir passé 10 jours ensemble. Benoît, d'abord, dites-leur que notre première qualité, c'est la joie. Chrétien du Nigeria, pays le plus persécuté au monde. Et ensuite, n'oubliez pas de dire aux chrétiens en France que notre espérance est bien plus grande que nos problèmes. Voilà. Bon retour en France. Faites des conférences autant que vous voulez, mais c'est ça que vous devez leur dire. Dites-leur que notre première qualité, c'est la joie. Et effectivement, j'étais à quelques messes au Nigeria. Je peux vous dire que la joie, elle est là. D'abord, ils ont un sens de la musique, de la danse absolument extraordinaire. Père, il faudrait que je vous montre des sorties de messe où le curé danse dans tous les sens, entouré de... C'est extraordinaire. Ah oui, mais extraordinaire, quoi. Une joie simple. La joie des enfants de Dieu. Et voilà, on vient de célébrer la messe, on est tout heureux. Notre première qualité, c'est la joie, je le confirme. Et notre espérance est bien plus grande que nos problèmes. Voilà ce que nous enseignent les chrétiens persécutés. Dernière chose, et je termine vraiment là-dessus, juste sur la charité, foi, espérance, charité, ce beau triptyque, juste que vous ayez conscience que l'Église à travers le monde, et souffrante. Mais rendez-vous compte aussi à quel point l'Église dans le monde est un acteur majeur de la charité. De la charité. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte en France, où on relègue l'Église, vous voyez, à la sphère privée, aux simples églises. C'est ce que le pape appelle la persécution diffuse. Vous avez le droit d'avoir une foi, mais surtout qu'elle ne vienne pas empiéter sur la vie sociale. Aberration totale. Mais dans le monde, l'Église est l'acteur majeur de la charité. Moi, je me suis fait cette conviction, c'est que si l'Église arrêtait ses œuvres de charité, le monde s'écroulerait. Vraiment, je le crois profondément. Je crois que si les moines arrêtaient de prier la nuit, le monde s'écroulerait. Ça, c'est ma conviction spirituelle. Et ma conviction, en arrivant au ciel, je demanderai juste une vérification, mais j'en suis absolument sûr. Absolument sûr. J'aime beaucoup les moines, et je trouve que la prière de nuit, quand tout le monde dort ou fait la fête ou s'éclate, la prière des moines fidèles tient le monde. Vous voyez ? Et la charité, les œuvres de charité de l'Église tiennent le monde également. Pensez à ces milliers de dispensaires, d'écoles, de maternités, de lieux de refuge, de distribution de nourriture, de médicaments, de vêtements qui ont été tenus, qui ont été créés, qui sont tenus par l'Église dans le monde. C'est absolument considérable. Mais c'est considérable. L'Église le fait avec beaucoup de discrétion parce que le bien ne fait pas de bruit et on ne fait pas de publicité. Et c'est très bien ainsi. Mais c'est extraordinaire. En Ukraine, aujourd'hui, depuis 2 ans, qui accueille ces milliers de déplacés internes, ces réfugiés? Mais c'est l'Église, c'est qui distribue des médicaments, des couvertures, qui scolarise en Terre Sainte, qui aide aujourd'hui ces milliers de familles qui ont perdu tout travail. L'Église est présente en Afrique, partout, les écoles, les dispensaires sont tenus par des petites religieuses incroyables. Je pourrais prendre un petit livret à la fin. Missionnaires, ils ont tout quitté pour offrir leur vie. Vous avez des exemples admirables de petites religieuses toutes simples qui tiennent des dispensaires au fin fond de la brousse. Et l'Église agit, quand elle agit, elle agit au service de toute la population. Ça, c'est aussi une particularité de l'Église. J'étais au Liban. Je suis allé plusieurs fois au Liban depuis que je suis directeur de l'AED. Vous savez, au Liban, les chrétiens, le nombre des chrétiens, il y a une hémorragie des chrétiens. Ils partent parce que les familles ne peuvent plus éduquer leurs enfants. Et pour les familles chrétiennes, l'éducation des enfants, c'est majeur. Alors du coup, comme on ne peut plus éduquer ses enfants et qu'ils ont peur de l'avenir, ils s'en vont. Et nous, nous nous battons pour aider les chrétiens à rester sur place parce que nous considérons que c'est leur terre. Et que s'il n'y a plus de chrétiens au Liban, c'est un risque majeur, non seulement pour le pays, mais pour l'ensemble de la zone. Donc nous nous battons. Et j'avais demandé à un imam, mais pourquoi faut-il aider à ce point les chrétiens, je lui parlais de notre mission, à rester au Liban? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, il m'a dit, au nom de ma foi, je vous dirai rien, vous faites ce que vous voulez, mais au nom de la charité, regardez qui tient les écoles, regardez qui tient les hôpitaux, regardez qui tient les dispensaires et qui accueille tout le monde, c'est vous les chrétiens. Si vous partez, tous ces établissements fermeront et le pays s'écroulera encore plus. Donc vous voyez, c'est le témoignage de cet imam qui me disait, mais c'est vous qui êtes les acteurs majeurs de la charité, était absolument bouleversant. Et une sœur m'a dit il n'y a pas très longtemps, vous savez Benoît, pour rentrer dans nos hôpitaux et dans nos écoles, nous ne demandons pas le certificat de baptême, nous demandons de quoi as-tu besoin? Donc l'Église est un acteur majeur de la charité. Et ne serait-ce qu'à ce titre, il faut l'aider. Donc je vous remercie infiniment d'avoir pris un peu de temps, pas de temps avec moi, ce soit qu'avec les chrétiens souffrants, d'avoir mieux mesuré leur détresse, qui est immense, mais d'avoir contemplé leur foi et leur espérance, qui est bien plus grande encore, et puis d'avoir été témoin aussi de leur charité, qui est tout à fait exceptionnelle. Et je vous invite à rester informés de la situation de l'Église dans le monde. Ils nous le demandent, ne nous oubliez pas. Je vous invite à prier pour les chrétiens souffrants. Votre prière est agissante. Et puis je vous invite, si vous le souhaitez, à soutenir l'AED ou d'autres œuvres. Nous n'avons pas l'exclusivité de la charité pour soutenir l'Église souffrante à travers le monde, pour lui permettre de vivre de survivre et de rayonner malgré les épreuves. Merci beaucoup pour votre patience.
Merci infiniment, d'autant plus que je trouve que le lien avec la conférence d'il y a 15 jours, Père Étienne Monnet sur la mission, la joie de la mission, et ça, tout ce que nous entendons ce soir nous encourage énormément et nous presse pour une mission d'autant plus importante et qui doit nous bouger vraiment profondément. Merci infiniment.
Merci pour votre confiance et votre attention. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Après, je vous invite, si vous le souhaitez, on a quelques documents, l'un sur les missionnaires, très joli petit document que nous éditons. La prière, on est combien aujourd'hui ? Il reste 5 jours pour prier, pour aller martyr, il n'est pas trop tard. Et puis dans le cœur de Dieu, le temps n'existe pas, donc vous pouvez tout à fait prier. Et puis un document sur l'AED, n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, est-ce que vous avez...
J'ai une
question. Oui, bien sûr.
Tu disais que les djihadistes ne supportent pas de partager la terre avec d'autres religions. Et les djihadistes font souvent des attentats aussi contre les musulmans. Ils considèrent qu'ils n'ont pas la même religion.
Oui, c'est ce que racontent absolument. C'est ce que disent beaucoup de musulmans en Afrique, au Sahel. C'est que justement auparavant la coexistence se passait très bien et que un islam venu du Moyen-Orient est arrivé. D'abord ils ont construit des mosquées, ce qu'ils appellent les mosquées salles de bain, nickel, avec carrelage et tout. Puis ils ont installé des mosquées. Alors au début tout le monde a pris ça très bien en disant très bien, ça va permettre aux musulmans de prier dans des bonnes conditions. Puis ensuite ils ont fait venir des imams qu'ils ont installés dans les mosquées. Et c'est là que les imams ont commencé à dire aux musulmans, vous pratiquez le mauvais islam. Vous ne pouvez pas parler aux chrétiens, vous devez vous faire pousser la barbe, vos épouses doivent porter un foulard, vous devez porter une tenue. Et attention, le vrai islam, c'est nous qui vous l'apportons. Et bien sûr, c'est ça qu'on leur a dit. Donc la question du vrai islam, c'est à l'islam lui-même de le résoudre et de le dire. C'est pas nous, on est bien incapables, c'est pas notre travail. Moi, souvent on me demande, alors l'islam, mais je sais pas, moi, je peux parler de l'église parce que j'en suis un enfant, mais quel est le vrai islam? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est ce qu'on leur dit, et on leur a dit effectivement qu'ils pouvaient plus cohabiter avec les chrétiens. C'est ça qui est dramatique, c'est que c'est importé, programmé et systématisé. Peut-être, père, j'espère ne pas... j'espère être juste ou...
Non, mais c'est vrai ce que vous dites, parce qu'au Burkina, on s'est rendu compte à un certain moment donné que les attentats n'étaient pas forcément orientés vers l'église. Il y avait les mosquées aussi qui étaient visées. Il y a eu des imams qui ont été enlevés. Et donc, on ne comprenait plus, en fait, en réalité, qu'est-ce qu'ils défendaient ou du moins, qu'est-ce qu'ils cherchent à prôner, en réalité. Ça reste une vraie question. Et donc, mais les vrais musulmans arrivent à vivre en cohabitation parfaite avec les chrétiens. On se respecte mutuellement. Voilà. Mais les djihadistes qui attaquent à la fois les chrétiens et les musulmans, du coup, ça pose la vraie question. Qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité? Sinon, que diviser la population et puis créer de la zizanie.
Le djihadisme prospère sur la division, sur la peur, sur les tensions, sur la faiblesse des États. Donc c'est sûr que la division, plus le pays est divisé et morcelé, mieux c'est pour eux, hein, parce que du coup ils peuvent petit à petit s'infiltrer. Et encore une fois, ces djihadistes, plutôt la grande difficulté, je me dis, mais qui les commande? Parce que les gars qui... j'ai vu souvent ça, parce que j'ai un père que j'aime beaucoup, le père Jean-Pierre, qui est au nord du Burkina Faso, qui a été enlevé, que j'ai pu rencontrer. Il dit que les gars qui l'ont enlevé, c'est des bandits de grand chemin, quoi. Hein. C'est des pauvres bonhommes. Ils ont 15 ans. On leur a donné quelques dollars. On leur a donné une arme, une moto. Et puis on leur dit, dès que tu vois quelqu'un passer sur la route, tu l'enlèves. Ils savent à peine si c'est un prêtre ou si c'est une religieuse ou si c'est un laïc. Ils y connaissent absolument rien. Hein. Donc effectivement, c'est qui commandite, c'est un peu difficile à savoir. Vous savez, juste sur, ils y connaissent rien. Moi, je suis allé au Pakistan. Là aussi, donc je dirige l'aide à l'église en détresse. C'est compliqué d'aller au Pakistan. J'ai mis 2 ou 3 mois à avoir un visa ici à l'ambassade du Pakistan. On m'a fait passer 6 entretiens à l'ambassade pour comprendre qui j'étais et ce que j'allais faire au Pakistan. Ils ont passé les 6 entretiens à me demander si j'étais un évêque. Alors je leur montrais mon alliance. Il y a un moment que, si vous voulez, ils n'y connaissent rien, les gars, les fonctionnaires. Ils disent, mais on pense que vous êtes un évêque. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je ne suis pas un évêque. Comment je peux vous le prouver? Mais je me disais, ils sont absolument ignorants, mais alors ils ont peur. Voilà, ils ont peur de l'Église, ils ont peur. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je... Et si j'étais évêque, qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Voilà, c'était leur grande obsession. Et d'ailleurs, les deux frères des campagnes là, qui ont été enlevés, dès qu'ils répondaient « Notre vie, nous l'avons déjà donnée », les garçons là, qui les ont enlevés, ils passaient leur temps à appeler le chef pour lui dire « Voilà ce qu'ils nous ont répondu, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ont aucune... Non, mais c'est vraiment des pauvres... Enfin, c'est terrible, parce que parfois, ils tuent... Mais il n'y a aucune idéologie, vous voyez. Enfin, ils ne cherchent pas du tout à convertir les bonhommes. On leur a juste demandé de semer la terreur et la division. Mais dès que les prêtres leur répondaient des trucs vraiment intéressants, ils appelaient le chef en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ont dit « on ne comprend rien de ce qu'ils disent, quoi ». Ils n'ont pas peur. Ils ont l'air très calmes. Et ils sont prêts à mourir. Ce n'était pas prévu, quoi. Et donc les djihadistes vivent... Enfin, le djihadisme, notamment au Sahel, vit de tous ces petits... ces bandits de grand chemin qui sont un peu effectivement fédérés, armés et payés par des autorités plus grandes qui, elles, disent « Attention, voilà ce qu'est le vrai islam ». Donc c'est dramatique. Hein. C'est en ce sens que le mouvement, il devient de plus en plus... Il s'étend de plus en plus et je ne sais pas comment on le... Moi, je ne sais pas comment on l'arrête. Ce n'est pas mon travail. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il fait des ravages. Et qu'il faut il faut pas être naïf sur ce sujet. Il y a l'islamisation du Sahel est systémique et systématique, me disait un des évêques du Nigeria ou du Burkina Faso.
On a beaucoup parlé des violences qui sont contre les chrétiens dans le monde, effectivement, mais il y a aussi une forme de persécution qui est beaucoup plus insidieuse. C'est tout ce qui est discrimination sur l'enseignement, sur l'emploi, sur etc. Ouais. Et ça, c'est aussi extrêmement présent sur les 400 millions de chrétiens qui sont persécutés.
Voilà, c'est ça. Nous, on parle de persécution et d'oppression. C'est les deux grandes tendances. Et effectivement, l'oppression, c'est le cas, effectivement, je pense là au Pakistan, où officiellement, alors il y a eu quelques attentats, effectivement, mais perpétrés par des djihadistes. Mais sinon, c'est l'oppression, c'est-à-dire que les chrétiens n'ont pas accès à l'éducation, effectivement, aux écoles. Quand j'étais au Pakistan... donc au Pakistan, les chrétiens effectivement ont un accès beaucoup plus difficile à l'éducation, les enfants. Du coup, comme ils sont peu éduqués, ils ont une formation moindre. Comme ils ont une formation moindre, ils ont moins accès à l'emploi. Et comme ils sont pauvres, ils vivent dans des bidonvilles. Moi, j'ai retrouvé au Pakistan, bien malheureusement, des bidonvilles tels que j'en avais connu au Cambodge ou aux Philippines. Donc là, ils vivent vraiment dans des bidonvilles épouvantables. Majoritairement, ils sont là tous chrétiens. Et effectivement, j'ai rencontré un évêque qui, parce que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, a créé son propre système scolaire pour les enfants, pour les enfants des familles chrétiennes, pour leur permettre d'accéder à l'éducation. Et sur la charité dont je vous parlais à la fin, aujourd'hui, dans son diocèse, au nord du Pakistan, me disait-il, 60% des enfants scolarisés sont musulmans. Et un imam, il me disait ça avec humour, il disait, vous voyez, Nous créons nos écoles parce que nous sommes rejetés de l'école publique et des écoles musulmanes. Nous créons nos écoles et désormais, il y a une majorité de musulmans et c'est très bien ainsi. Et un imam lui avait dit, vous, les chrétiens, vous n'êtes pas rancuniers. Ce qui est vrai. Mais c'est beau, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de revanche. On ne peut pas aller à l'école. Ne vous inquiétez pas, on va en créer. Et si vous avez besoin d'y aller, vous êtes les bienvenus. Donc oui, dans beaucoup de pays, là, ce n'est pas tant des persécutions que de la discrimination qui fait qu'on est traité comme un citoyen de seconde zone. L'accès à l'éducation, aux soins, à certains métiers. En Chine aujourd'hui. Hein. La Chine aujourd'hui, je connais très, très bien la Chine, pour avoir travaillé très longtemps, 11 ans en Asie. Hein. Aujourd'hui, le système qui permet de surveiller les chrétiens notamment, mais pas que, hein, c'est les caméras de surveillance reliées à l'intelligence artificielle, des millions et des millions de caméras qui surveillent vos comportements et selon les lieux où vous vous rendez, peuvent savoir si vous êtes un chrétien qui pratiquant et qui va à la messe, soit clandestine, soit officielle, et vous avez un principe de crédit social, un peu comme un permis à points, et selon votre comportement, bon ou mauvais citoyen, vous gagnez ou vous perdez des points, et notamment la pratique religieuse est surveillée. Et si vous êtes un chrétien qui pratique l'église non officielle, vous perdez des points, et du coup, vous n'avez pas accès à certaines subventions, à certains logements, à certains métiers, tout à fait. Et j'ai fait vérifier cette information auprès des missions étrangères de Paris, spécialisée évidemment sur la Chine. J'ai demandé à un prêtre missionnaire que je connais bien, père, est-ce que vous confirmez que les caméras de surveillance avec reliées à l'intelligence artificielle permettent de surveiller les comportements de l'église? Il m'a dit évidemment, et on s'en méfie beaucoup. Et me disait-il, et c'était il y a 3 ans, et désormais ces systèmes de vidéosurveillance sont vendus à d'autres pays qui vont installer ces systèmes, et ça permettra de surveiller les comportements, et donc de maintenir une certaine pression contre les chrétiens, et de leur dire « on vous a à l'œil ». Quand je travaillais pour Enfants du Mékong, qui n'est pas une ONG chrétienne, nonobstant, nous soutenions beaucoup l'Église, pendant 11 ans, je suis allé au Vietnam, très souvent, les autorités m'ont montré qu'elles me surveillaient de près, refusant mon visa régulièrement, fouillant la chambre de mon hôtel très régulièrement, juste pour me dire, nous savons qui vous êtes, nous savons ce que vous faites, et on vous a à l'œil. Pareil, c'est comme au Nigeria, je risquais rien. Mais c'est juste pour dire, attention, on vous surveille. Et quand on est chrétien dans ces pays, on vous dit, attention, on vous surveille. Et parfois, ça peut aller jusqu'à un emprisonnement ou, en tout cas, ce que je disais, une vie misérable. Ça, c'est une réalité. Il y avait une autre question, ouais.
Est-ce que vous pensez, je reviens sur le djihadisme, ouais. Est-ce que vous pensez que les conséquences sont irréversibles, on ne pourra pas revenir en arrière, un peu, enfin, si je fais un parallèle peut-être un peu bancal avec ouais. L'idéologie communiste, ouais. l'Église finalement a pu renaître, et est-ce que vous pensez que c'est irrémédiable ?
Alors, donc, je vous ai dit, hein, moi je ne suis pas un expert du sujet. Ce que je vois, c'est que ça fait 10 ans que l'AED avertit sur l'expansion du djihadisme, notamment au Sahel, qui est devenu le deuxième épicentre mondial, hein, et que les faits nous donnent raison, et qu'on a quasiment tous les jours des mauvaises nouvelles. Puis la France s'est totalement retirée de la zone. On laisse vraiment ces pays aux mains des djihadistes. Donc, factuellement, la situation s'aggrave. Dans le même temps, pour les chrétiens, je vous ai partagé quelques... Et donc, qu'est-ce qui arrivera à l'avenir? Ça, j'avoue que je serais bien incapable de vous le dire. L'espérance me montre qu'effectivement... Et oui, ça, je pourrais vous raconter un petit témoignage là-dessus. C'est qu'en rentrant du Nigeria... Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Et dans le même temps, cette foi éprouvée, vous voyez, au feu, hein, est absolument, je vous l'ai dit, extraordinaire. Au Nigeria, un évêque, je rencontre beaucoup d'évêques, mais que j'ai rencontré, me demandait me demandait un soutien pour son le séminaire de son diocèse. Je ne sais pas quoi, il y avait déjà une centaine de séminaristes. Il lui manquait 50 chambres dans son séminaire pour accueillir tous les séminaristes. Donc, je veux dire, moi, je dis souvent, vous permettez, les djihadistes, mais même le mal peut cogner contre le monde tant qu'il peut. Et il le fait, vous voyez, avec une brutalité stupéfiante. Vous voyez, le diable, quelqu'un me disait ça il n'y a pas longtemps, le diable fait mal tous les jours parce qu'il ne sait faire que ça. C'est l'activité unique du diable. Il frappe contre le monde et il cogne fort. Et hélas, j'en suis un témoin quotidien. Mais la réponse de la charité, la réponse de la foi, la réponse de l'espérance est toujours bien plus grande encore que le mal. C'est ça qui m'impressionne. Moi, j'entends le diable ricaner. Vous voyez, tous les jours, on reçoit un fil d'actualité. On a des nouvelles de tous les pays dans le monde. Et je reçois tous les jours, là, je pense que sur mon téléphone, j'ai des nouvelles de 10 diocèses qui annoncent, une église pillée, une sœur enlevée, un prêtre tué. Voilà. Donc je vois ce mal qui frappe contre le monde. Et en retour, en réponse, je vois des bienfaiteurs qui disent « qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ?» Je vois des bienfaiteurs qui disent « hier soir, on a organisé une veillée de prière pour les chrétiens souffrants. » Je vois ce soir, vous êtes ici alors que vous auriez pu passer une petite soirée bien plus intéressante loin de moi. Et vous avez quitté le confort de votre maison. Je vois, des fruits extraordinaires. Vous voyez. Donc moi, ma réponse, c'est de dire que le monde va mal et je ne sais pas comment les choses vont évoluer, notamment sur cette grande question internationale ou religieuse. Mais ce que je vois dans le même temps, c'est que les fruits de la charité, les fruits de la prière sont extraordinaires. Le mal a perdu. Le diable peut s'agiter tant qu'il veut. Mort, où est ta victoire ? Bien sûr que la mort fait mal et que le mal fait mal. Mais c'est... J'ai l'impression que le diable s'agite puisqu'il sait déjà qu'il a perdu. Et je suis, moi, à mon tout petit niveau, un témoin émerveillé, justement, de la foi, de l'espérance et de la charité. Émerveillé. Qui sont, mais comme disait Monseigneur Mamza, mais bien plus grandes que les problèmes, que je ne nie pas. Hein. Encore une fois, je les porte et à ma petite mesure. Et parfois, ça me fait souffrir profondément. Quoi. Vous voyez, même à l'immensité des choses à faire. Quoi. Par quoi on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, cette année, l'Ukraine, la Terre Sainte, le tremblement de terre en Syrie et en Turquie... Nous, on tient des permanences tout le temps pour être sûr, si jamais il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être épuisé. Et dans le même temps, je vois des merveilles. Je vois une petite grand-mère, là, cette semaine, qui m'écrivait, en disant, j'ai pas assez d'argent pour mettre un timbre, mais je tenais à vous envoyer un chèque. Je dis, voilà. Tant qu'il y aura des petites grand-mères qui enverront des chèques sans timbre, c'est bon. Hein. On a gagné, hein. Non, oui, c'est ça qui est merveilleux. Père.
J'ai envie de dire juste un mot par rapport à la question d'Emmanuel. C'est sûr que parler de l'Afrique, je ne saurais pas parler de l'Afrique, mais le cas du Burkina, ce que j'ai envie de dire, le mal est réel, la violence est forte, mais l'espérance est plus forte que la violence. Il y a 3 ans, j'ai participé à un enterrement d'une attaque d'une église, donc les chrétiens étaient réunis juste avant la messe. Ils ont tué presque 30 chrétiens un dimanche. Et le prêtre, un jeune prêtre que je connaissais bien, qui avait à peine 2 ans de sacerdoce, avait été abattu avec plusieurs coups de fusil. Et donc l'église avait été, on voyait les traces des balles, la violence à l'intérieur de l'église. Et quand ils sont venus identifier les corps, les évêques ont demandé quelques jours après qu'on fasse les obsèques de ces chrétiens qui ont été violemment tués dans cette même église. Et il y a eu un monde fou des chrétiens qui sont venus de partout. Je me rappelle, j'ai parcouru presque 400 km pour être là, participer. Mais je ne voyais pas la tristesse sur le visage. Mais la détermination pour dire qu'on est là, même si vous voulez, revenez encore, on est là, pour le Christ, pour la personne du Christ. Et plus la violence se répand dans les différents diocèses, plus je me rends compte que le nombre de catéchumènes qui demandent le baptême ne sont pas. Dans nos paroisses, je sais que l'année du Pâques, on aura 700 ou 800 baptêmes. Et donc ces chrétiens, ils viennent d'où? Malgré la violence, malgré la persécution, ils sont là. Et donc c'est ce qui me fait dire que voilà, l'espérance est plus forte que la peur, la violence, le mal. Et c'est la foi, la lumière qui va le dernier mot.
Je peux oser un mot. Le Christ a, enfin, parce qu'on est dans le contexte de la Semaine Sainte, le Christ a fait de la croix et donc de la souffrance le moyen même du salut du monde. C'est-à-dire non seulement ça n'empêche pas les chrétiens de rayonner, mais c'est précisément dans la souffrance et dans la persécution que le Christ a décidé de sauver le monde. C'est-à-dire il en fait le moyen du salut. Et du coup, le mal est totalement impuissant. Le Christ aime infiniment les pharisiens qui sont en train de hurler sur lui. Le Christ aime infiniment le mauvais larron qui se moque de lui. Après, c'est la liberté de chacun d'accueillir ou non le salut. Mais le salut vient de la mort elle-même du Christ. La mort d'amour, bien sûr.
Et je suis évidemment absolument d'accord, et puis on en a souvent parlé. Hein. Ce qui m'embête parfois, c'est que eux souffrent. C'est que cette souffrance, elle est pas partagée. Quoi. C'est eux la portent d'une manière considérable. Quoi. C'est presque, comprenez un peu. C'est un peu se dire waouh, parce qu'effectivement. Se dire que la souffrance qu'il y a la résurrection, mais dis donc, ils en
payent la souffrance pour le plaisir non plus.
Ouais. Mais ils en payent un prix parfois démesuré. Quoi. Et on est. C'est pour ça que, au début, quand je faisais des témoignages où j'avais du mal à parler de la joie, de l'espérance, parce que ça paraissait un peu décalé, quoi. Et puis petit à petit, à force de rencontrer du monde, je parle en leur nom. Parce que si c'est moi, Benoît de Blanpré, qui parle de la souffrance, ben ça fait marrer tout le monde. Quoi. Parce que moi, je ne souffre pas du tout. Vous voyez, moi, j'ai des souffrances microscopiques. Quoi. Mais c'est pour ça que j'ai acquis la conviction que je devais parler en leur nom, parce qu'eux ne peuvent pas le dire, et que j'essaye au maximum de prendre leurs mots, et que je dis au milieu de... que si je ne disais pas leur foi et leur espérance et leur joie, je les trahirais. Si je ne, vous voyez, je ne restais que dans le dolorisme, et même d'un point de vue marketing, je pourrais vous raconter que des choses horribles en disant avec l'AED, on va changer le monde, mais pas du tout. C'est pas du tout mon métier. Moi, mon métier, c'est juste d'être témoin de cette souffrance réelle et dans le même temps de cette foi, de cette joie et de cette espérance considérable qui est, c'est ça. Au cœur de la détresse, l'espérance, mais vraiment au cœur de la détresse. Et je pense même que l'espérance pure, si on peut l'appeler comme ça, elle naît au cœur de la détresse totale. C'est quand il n'y a plus rien, alors que naît la certitude que le seul qui compte, c'est Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? Vous m'avez tout pris. Vous m'avez pris ma liberté. Vous me nourrissez avec dans la gamelle des chiens. Et aujourd'hui, vous me proposez la liberté contre le Christ? Jamais. Jamais.
J'ai eu la chance d'aller à Manille il y a deux semaines. Et quand on dit au père Mathieu Daucher, on s'étend sur la souffrance, la pauvreté des enfants de Manille, il dit, mais c'est chez vous qu'il y a les vrais pauvres. Chez vous, il y a des vrais pauvres, ils n'ont rien, ils n'ont que de l'argent. Et c'est ce que Mère Teresa disait aussi, sans cesse. Vous êtes beaucoup plus pauvre que les pauvres.
Ouais.
C'est-à-dire, votre pauvreté à vous, c'est cet aveuglement qui vous empêche
ouais.
de voir.
Ah, absolument.
C'est terrible. C'est terrible.
Ouais. Non, c'est pour ça que je dis aussi, l'AED, ce n'est pas des chrétiens bien portants qui aident des chrétiens. Tu sais, il y a quelque chose de bien plus grand que ça. Et il y a une véritable vie ensemble dans l'Église universelle. Chacun porte ses souffrances et chacun échange. Et c'est un admirable échange permanent. Et qui. Bon, voilà. Qui est nourrissant.
Merci infiniment.
Merci.
Juste avant de,
oui, pardon.
Avant de terminer, je voudrais vérifier votre accent. Est-ce que vous pouvez nous réciter le
Notre Père en araméen? Ah, ah oui, très bien. Est-ce que vous proposez, on peut oui, si vous voulez, si vous voulez. En dehors de mon accent, effectivement. Non, mais vous pouvez distribuer peut-être la prière des martyrs. Hop, hop, hop.
Seigneur, sur les cinq continents,
en haine de la foi, tant de chrétiens sont menacés, persécutés, signe de contradiction, animés du seul désir d'aimer. Ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux, accueillis auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs, aveuglés par la violence, que le sacrifice et le pardon de leurs victimes les mènent sur un chemin de conversion. Vierge Marie, toi qui la première éprouva dans ta chair le glaive, invoque pour nous l'esprit de force, qui éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, qui renouvelle notre foi et nous donne le désir de témoigner en toutes circonstances que le Christ est Seigneur. Amen.
Alors voilà notre Père en araméen, en tout cas tel que je l'ai récité avec Monseigneur Garmeau, pour tous nos frères chrétiens souffrants, particulièrement en Afrique, au Moyen-Orient et dans tous les pays, les continents que nous devons évoquer ce soir. Abun de Bashmaya, Net Kadash Sheshemor, Titie Malkusor, Neraila Weteshputork. Nerwe Sabionor, Aikana de Boshmaya of Bacha, Abulan Nachma de Sunkana Nyoman, Weshuklen Herwin Watai, Aikana Dafnan, Shuakan Le Ayaban, Wella Tablan Neishuna, Ilu Basan Min Bisho, Mitul Dilaki Malkutor, Neraila Weteshputork, Le Halam, Almin, Amen.
Amen. Merci.
Je vous salue,
Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes aimée entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Le
Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous, sur tous les vôtres et tous nos frères persécutés. Et il demeure à jamais. Amen.
Amen.
Merci encore, Benoît.
Merci. À vous.
Merci.
Et remercie Amine de notre part.
Oui. Merci.